Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous venons de lire, comme chaque dimanche, et cela ne vous a pas échappé, une épître et un extrait de l'Évangile. J'aimerais vous poser très simplement cette question, afin que vous vous la posiez vous-même directement. Qu'est-ce qui, entre l'épître et l'Évangile, vous a marqué? Quel est le texte que vous retenez spontanément et celui qui peut-être vous reviendra en tête cet après-midi? Sans doute, je pense, l'Évangile. Et comme souvent d'ailleurs. Pourquoi l'Évangile? Parce qu'il est fait allusion dans ce texte d'aujourd'hui à un miracle, c'est-à-dire à un récit qui frappe l'imagination d'un phénomène surnaturel et sans aucun doute retiendrez-vous jusqu'à des détails de ce récit. Les 7 pains, les 7 corbeilles, les 4000 personnes, voilà des choses qui, devant le récit d'un miracle, restent en tête. Quant à l'épître, je pense ne trahir aucun secret en disant que, sans aucun doute, elle vous a beaucoup moins marqué, comme très souvent les épîtres. Pourquoi? Parce qu'elle ne relate pas de phénomènes extraordinaires. Il s'agit d'une doctrine, et d'une doctrine assez sèche, d'une doctrine assez austère, que celle de saint Paul dans l'épître d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'Évangile et son récit miraculeux, je pense, qui vous a focalisé l'attention. Vous ne savez plus exactement, du reste, je pense, je ne fais pas circuler de feuilles d'interrogation, mais je pense que les choses sont faites assez rapidement, je pense que vous ne sauriez pas quoi trop répondre quant au contenu de cet épître. Nous sommes vraiment terribles, parce que nous sommes tellement tributaires de notre imaginaire, que nous ne retenons que ce qui brille, que ce qui hypnotise notre regard. Je veux parler des phénomènes surnaturels, des phénomènes extraordinaires. Quant au reste, eh bien, très rapidement, notre pauvre imagination, qui ne trouve pas à se nourrir, je parlais des épîtres d'aujourd'hui, eh bien, ne se fixe plus, et puis nous attendons eh bien, la fin de la messe tranquillement. Vous voyez, le spectaculaire, le paranormal, voilà qui nous appête, voilà qui nous fascine. L'austérité nous fait décrocher tout de suite. Et c'est bien dommage parce qu'à y regarder de près, le texte le plus profond, le texte le plus important des deux aujourd'hui, ce n'est pas le récit de l'Évangile, de la multiplication des pains, encore que ce miracle soit important, ce n'est qu'un miracle parmi d'autres, qui n'a pas de grande portée, j'ose le dire. Alors peut-être qu'on viendra allumer un bûcher à la fin de cette messe, tant pis, j'en répondrai. Le texte le plus important d'aujourd'hui, qui relate le miracle par excellence de la mort et de la résurrection du Christ, et de notre propre mort et de notre propre résurrection, c'est l'épître de saint Paul. Vous voyez que derrière les paillettes qui nous ont attirés, les feux de Bengale de ce phénomène extraordinaire du miracle de la multiplication des pains, se cache en fait le texte de l'épître de saint Paul qui est beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus nourrissant pour notre foi. Alors c'est vrai qu'au premier abord, ce texte de saint Paul peut paraître très revêche, parce que, et on pourrait se dire qu'en matière de communication, l'apôtre n'y entend rien. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une épître, une lettre adressée aux chrétiens de Rome, c'est-à-dire pour la plupart d'entre eux, des gens venus du paganisme. Et que leur affirme-t-il dans cette épître? Il leur affirme que la vie chrétienne, c'est la mort. C'est vrai qu'on a vu plus percutant en termes de communication. C'est vrai. Vous voyez, en pleine société décadente, jouisseuse, parce que c'était le cas à l'époque déjà, ce n'est pas d'aujourd'hui, de cette Rome décadente, où l'on ne pense qu'à vivre, et à vivre selon toutes les dimensions, entendre les plus basses essentiellement. On était totalement sensuel dans cette Rome déjà décadente à l'époque de saint Paul. Voilà que cet apôtre, qui semble ne retenir aucune leçon de son échec devant l'Aréopage d'Athènes, où il s'est fait ni plus ni moins limogé, écarté, d'un revers de bras, voilà qu'il remet le couvert à Rome, et que devant des païens à nouveau, il ose leur dire que le christianisme c'est la mort. C'est vrai que ce texte a quelque chose de très repoussant. C'est pas étonnant que l'antiquité païenne ait considéré la communauté chrétienne, à l'aune de ce genre de texte, comme une espèce de bande de croque-morts, des déséquilibrés qui étaient fascinés par la croix, par ce Dieu qu'ils adoraient, qui était un Dieu sanguinolent, et qui revendiquait la toute-puissance de ce maître mort dans un échec apparent. Vous voyez, on passait pour des cinglés dans cette Rome antique parce que l'on vénérait un homme en échec et l'on était fasciné, semblait-il, aux yeux de ses païens, par la mort, par l'échec. En gros, l'Église était une bande de losers, pour parler en termes très contemporains. C'est ce qui se passe aujourd'hui encore. L'Église, aux yeux de nos contemporains, passe pour une bande de perdants. et de reprendre les sempiternelles remarques de Nietzsche sur l'Église, qui est cette espèce de bande de dérangés mentaux qui exalte la petitesse, qui exalte la et qui fuit la puissance, ce qui est beau, ce qui est grand, pour se rester tacmuré dans ces espèces de petites chapelles du fin fond de la campagne. Voyez. Alors, effectivement, si on s'arrête à l'apparence de ce texte, qui est très austère, à la revendication qu'il faut mourir pour être chrétien, si on s'arrête à la manière dont certains pères de l'Église vivaient, je ne sais pas si vous avez déjà lu, et on n'est pas là dans les contes de fées, c'est de la réalité. Quand on lit les vies des pères de l'Église, on est un tout petit peu dérangé, parce que les pères de l'Église, pour certains d'entre eux, vivaient dans des tombeaux, pour fréquenter en permanence des morts. Il vivait avec un crâne, ce n'est pas le simple fait des tableaux baroques, c'était bien la réalité. On vivait, pour certains d'entre eux, des folles en Christ, des pères de l'Église, des pères du désert, dans des tombeaux, et on songeait à la mort en permanence. Si on prend en considération également, et si on s'arrête là, la façon de vivre, par exemple, des Clarisses, avant la réforme des années 70, à l'époque où on réformait tout, les Clarisses avaient pour coutume de vivre dans leurs cellules, avec sur leur lit, sur leur couche plus précisément, un drap mortuaire, noir, marqué de la croix blanche. Si l'on s'arrête à un certain nombre de détails, lors de retraites, par exemple, de Saint-Ignace, il est fréquent, dans certaines maisons, qu'on expose un crucifix rouge sans aucun Christ figurant sur le crucifix. Non pas parce qu'on voudrait nier la mort du Christ en croix, mais parce qu'on veut inviter le retraitant à monter lui-même sur la croix en lieu et place du Christ. Si l'on s'arrête à tous ces signes-là, si l'on s'arrête au discours de saint Paul, pour vivre chrétien, il faut mourir, alors effectivement, l'Église passe pour une bande de personnes fascinées par la mort et qui refusent de vivre tout simplement parce qu'ils n'en ont pas la force, ils n'en ont pas le courage. Voyez. Alors il faut aller bien sûr au-delà de tout cela. Il faut l'interprétation qui nous est donnée par l'Église elle-même, qui nous est donnée par le magistère, qui est un magistère vivant, qui ne veut pas du tout la mort, pour comprendre quoi, selon ce que nous dit le magistère lui-même, que l'Église n'a jamais méprisé la chair, que l'Église n'a jamais méprisé la vie, que nous sommes, aucun des saints n'a été frileux devant la vie. Tous avaient une constitution puissante, et même s'ils étaient malades, ils aspiraient plus que tout à la vie. L'Église n'a pas non plus toujours voulu faire fuir les fidèles dans une espèce d'au-delà éthéré qui viendrait un jour si on acceptait une sorte de dérédiction terrestre. Si on était des losers sur terre, on serait des winners au ciel. Voilà ce qu'on prête soi-disant comme discours à l'Église. L'Église n'a jamais tenu ce discours-là. L'Église n'a jamais incité, comme le temple solaire, à une sorte de suicide collectif. Il faut fuir ce monde-là qui est horrible pour elle. Non, l'Église assume la vie. Et l'Église veut de cette vie. Seulement, elle pose comme préalable que cette vie est trompeuse. Hein, la vie est un songe. Peut-être connaissez-vous la vie d'El Sueño, si je prononce bien l'espagnol, de Calderón, un auteur baroque. Pour toute l'époque baroque, avait bien conscience de cela. La vie, avec cette aspiration à la jouissance sous toutes ses formes, est trompeuse. Cette société contemporaine qui prétend aimer la vie, en réalité, s'achemine lentement, et ça fait déjà des siècles, vers le suicide collectif et vers la mort. C'est un attrait, Eros n'est pas loin de Thanatos. L'attrait à la jouissance sous toutes ses formes, un jour ou l'autre, provoque la dislocation de la personne et c'est la mort. L'Église, elle, démine le terrain et vous explique qu'il ne s'agit pas de tomber dans cette... Il ne s'agirait surtout pas de tomber dans cet excès, mais de passer au-delà des apparences, c'est-à-dire d'enlever ce que la vie, sous cette forme-là païenne, a de dangereux pour l'être humain, de mauvais, parce que tout s'arrête à la mort, il n'y a pas d'au-delà dans cette considération des choses, et elle vous explique, l'Église, qu'il faut d'abord vous renoncer à vous-même, il faut comme renoncer à cette vie qui est mêlée de bon grain et d'ivraie, parce que l'aspiration à la vie, elle a été mise dans notre cœur et jusque dans notre être, le plus corporel par Dieu même, ça c'est bon, mais il faut aller au-delà de cela, il faut, si vous voulez, enlever le poison qui s'est mêlé à cette belle aspiration à la vie. Il faut aspirer à monter sur la croix avec Jésus-Christ pour, et dès cette terre, accéder à la vraie vie. Une vie qui fixe les priorités là où elles doivent être. C'est-à-dire, pas d'abord les jouissances corporelles, mais d'abord l'aspiration à la vérité, la volonté de faire le bien, le goût pour le beau, tout toute chose qui, dans la vie païenne, passe à la trappe. Voilà que par la mort avec le Christ sur la croix, nous sommes comme déjà ressuscités. Nous avons déjà acquis cette victoire. Et bien loin de mépriser la vie et le monde, en réalité, nous sommes ceux qui vivons le plus. Nous sommes ceux qui profitons le mieux de cette création. Voilà ce que saint Paul veut dire à ces païens de Rome, à ces chrétiens, mais venus du paganisme. N'ayez pas peur de mourir à vous-même, de monter avec Jésus-Christ sur la croix, vous ne perdez rien au change. Mais au lieu de cette vie dissolue qui aspire en tous sens à la vie sous toutes ses formes et surtout sensuelle et qui finit par le suicide, Jésus-Christ, lui, vous propose d'abord de mourir à vous-même, c'est-à-dire de fondre votre volonté dans la sienne, pour enfin pouvoir jouir de toute la création comme un homme doit en jouir, et mieux comme un saint doit en jouir. Vous voyez que ces considérations, nous sommes au seuil, je termine là, nous sommes au seuil de l'été, nous sommes au seuil des vacances, ou peut-être déjà engagés dans les vacances, où l'aspiration à jouir est bien présente. On le comprend, on veut lever le pied. Oui, mais lever le pied, il faut faire attention à ce que ça veut dire, à ce que ça implique. Et il est très bon que saint Paul nous avertisse, au seuil des vacances, sur ce que doit être cette vraie vie, ce fait de profiter des vacances. Il est normal d'aspirer à vivre de ce temps de vacances où l'on fait d'autres activités, où l'on vit de loisirs, oui, mais sans jamais oublier que l'on ne doit pas cesser de demander à Dieu que sa volonté advienne. Nous devons chaque jour de ces vacances, ça vous paraît étrange comme conseil de vacances, voilà, si j'étais instituteur ou professeur, ce que je recommanderais aux élèves, en guise de travaux de vacances, là, les petits livrets de vacances, eh bien chaque jour, un exercice de mort à soi. Pourquoi ? Pour se rappeler que l'essentiel n'est pas dans la jouissance des choses de la terre, mais d'abord dans l'accomplissement de la volonté souveraine de Dieu. Si chaque matin vous accomplissez un acte de renoncement à la fin de votre prière, que vous acceptez de renoncer à tel ou tel bien terrestre, je peux vous assurer que vos vacances seront transfigurées et que, paradoxalement, à la fin de ces vacances, vous ressentirez un sentiment apaisé d'avoir vécu des vraies vacances, d'avoir pleinement joui des vacances. Voilà donc ce petit exercice très concret que je vous invite à faire et j'irai en première ligne, ne vous inquiétez pas, enfin j'essaye de m'acquitter de cela pendant ces vacances, promettez-moi d'en faire de même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.